Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Chloé Lantier, ou plutôt devrais-je dire l'immense Chloé Lantier. Alors je vous lis la bio que l'on trouve au début du dernier ouvrage de Chloé, Sans Limite, aux éditions Guérin. Chloé Lantier est diplômée d'une maîtrise en biomécanique et performance humaine et d'un bachelor en sciences et physiologie de l'exercice. Avec plus de 30 ans d'expérience, elle exerce aujourd'hui en tant que consultante auprès des cliniques d'orthopédie sportive, d'équipes professionnelles et d'athlètes de tous les niveaux. Elle travaille entre autres avec le PSG et le programme spatial de la NASA. Athlète accomplie, elle a réalisé plus de 40 podiums en trail et est ex-championne du monde de 24 heures VTT. D'origine canadienne, elle s'est installée à Chamonix où elle a fondé le Chamonix Mountain Endurance Academy et elle est l'auteur de Trail, les clés pour performer sans se blesser aux éditions Glénat. Voilà, et sans plus attendre, Chloé Lantier. Alors Chloé, on entend souvent dire « j'ai fini au mental ». Mais à quel moment commence le mental?
Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas dissocier le mental du physique. Donc le mental est toujours là. Donc quand les gens disent « il a fallu vraiment que je pousse mentalement », c'est un équilibre entre ça devient très difficile physiquement. Donc il faut vraiment qu'il focalise pour résilier jusqu'à la ligne de la ligne d'arrivée. Donc on est tous différents, mais d'habitude c'est ça. Quand les choses deviennent pénibles, on cherche dans le mental, mais même si le mental est là à la ligne de départ parce qu'on est nerveux, on a un peu d'insécurité, on commence à penser si on s'est assez entraîné, si on est prêt pour la distance, pour le dénivelé. Donc, c'est ça. Il faut jamais oublier qu'on peut pas dissocier le physique et du mental.
Tu dis sur la ligne de départ, on va se demander si la préparation a été bonne, si on est prêt pour le dénivelé. Est-ce qu'il est pas un petit peu tard pour se poser ces questions quand on est sur la ligne de départ?
Totalement.
Est-ce que c'est pas un petit peu tard et est-ce que c'est une bonne chose de laisser ce genre de pensée arriver au moment où on va partir?
Non, mais la réalité, c'est qu'on est humain. Et à la ligne de départ, c'est souvent quand le doute ressort. Même si on sait qu'on est prêt, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont penser, regardent autour d'eux, puis tout le monde pense la même chose, mais tout le monde pense qu'ils sont le seul à penser ça. Donc non, c'est pas une bonne chose, mais c'est humain. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il y a des athlètes de très haut niveau qui vont se surentraîner parce qu'ils pensent qu'en s'entraînant plus, ils vont être beaucoup plus forts que l'autre, mais encore, on en fait plus dû à une insécurité. Donc non, c'est pas une bonne chose. Mais je donnais uniquement un exemple comment le mental joue. Et tu as totalement raison, c'est pas une bonne chose à faire. Mais si jamais vous commencez à avoir des pensées parasites à la ligne de départ, sachez que c'est normal, mais de les mettre de côté.
Alors, comment on les met de côté? Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais bien que tu me l'expliques. Toi, comment tu fais, toi?
La réalité, c'est que ça fait partie d'un cheminement. Moi, je fonctionne beaucoup avec des stratégies. Donc, je commence à me préparer avant une compétition très en avance avec mon équipement, mon hydratation, ma stratégie mentale. Puis, à la ligne de départ, je sais que je me suis assez entraînée, j'ai tout fait, et là, le travail débute. Donc, je suis prête pour La température, parce que je me suis entraînée dans plein de différentes températures. Je me suis entraînée pour le dénivelé, pour le profil de la course spécifique. Je sais que je suis prête. Là, c'est juste une question de gérer mes efforts et d'implémenter les stratégies tout dépendant des obstacles qui peuvent arriver durant la compétition. Si je commence à avoir des problèmes gastro-intestinaux, si je commence à être un peu fatiguée, si je commence à pas, tu sais, des fois, c'est pas, on n'est pas sur le jour J, on se sent pas bien, même si on est parfaitement entraîné. Donc, c'est aussi pouvoir être capable de s'adapter. Mais ça, tout est fait à l'entraînement. Donc, ceux qui ont vraiment une insécurité à la ligne de départ parce qu'ils se sont pas bien entraînés, ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est trop, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu trop tard. Mais si je sais que j'ai tout fait, mais je suis quand même sûre à la ligne de départ, ça, c'est bien. Parce que c'est bon d'avoir du stress, c'est bon de que les nerfs, tous les grands champions vont être nerveux avant la ligne de départ. Parce que c'est le temps d'agir. Mais pourvu qu'on se laisse pas influencer par des pensées parasites.
Est-ce qu'il vaut mieux? Parce que là, à l'instant, tu viens de dire un truc pas. De toute façon, ça va être ça pendant une heure, hein. On a déjà parlé. Je sais que tout ce que tu vas dire va être très, très intéressant. Donc, je vais m'abstenir de faire cette phrase à chaque fois. Tu viens de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'arrive très bien préparé, mais pour les athlètes qui n'arrivent pas très bien préparés, c'est délicat d'avoir ce genre de pensée parasite. Est-ce qu'il vaut mieux arriver légèrement sous-préparé, mais parfaitement maîtriser ses émotions et faire savoir-faire avec les moyens du moment? Ou être super préparé, affûté comme une teigne, mais se laisser déborder par ses émotions?
Ben moi,
est-ce qu'il vaut mieux être très fort dans les jambes ou très fort dans la tête?
Ouais, mais moi,
même
quand
si ça veut rien dire.
Moi, quand je disais j'étais super préparé, je parlais pas juste affûté physiquement. Moi, super préparé, c'est mentalement et physiquement. Et pour pousser ses efforts et être prêt, c'est à l'entraînement faire tout ce qui peut arriver dans une compétition. Donc, c'est s'entraîner au dénivelé, mais au dénivelé quand il fait très chaud, quand il fait froid, quand il pleut, s'entraîner la nuit, le soir, si on va faire un ultra qu'il faut passer à travers une nuit complète, c'est de vraiment être confortable, courir avec une lampe frontale, de savoir gérer ses efforts, savoir comment se retirer un peu, ralentir, savoir aussi que quand on se sent mieux, il faut pas aller trop vite parce qu'éventuellement on se sentira pas nécessairement bien. Fait que pour moi, c'est ça, c'est arriver à la ligne de départ, que tu sois débutant ou que tu sois élite, il faut être bien équilibré. Et c'est ça que j'essaie de partager dans mes livres et quand je fais mes masterclass, c'est que il faut aussi découvrir chacun ce qu'on a vraiment besoin de développer. Comme moi, je sais mes faiblesses, où je dois passer plus de temps. Une autre personne, ça va être très différent, mais c'est de vraiment savoir, c'est de se mettre dans le profil, dans l'environnement de notre course, puis affûter notre mental et notre physique, qui va nous permettre de pouvoir pousser un peu plus nos efforts sans douter. Mais il faut comprendre aussi que c'est normal d'avoir des moments inconfortables, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir découragé, mais c'est persévérer, c'est mettre ça de côté et se focaliser sur ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de me rendre au prochain ravitaillement, j'ai besoin de raccourcir ma foulée, j'ai besoin de sauver de l'énergie. Je vais alterner marcher, courir jusqu'à temps que je puisse avoir un meilleur ravitaillement, puis je vais repartir à un rythme un peu plus élevé. Vous voyez, ça, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment l'équilibre entre le mental, le physique et les émotions.
Donc, ça veut dire que toi, tu prônes une attitude globale où on va pas mettre les watts pour nous cyclistes, ou la longueur de la foulée, le nombre de foulées, etc. pour les coureurs à pied. Donc, tu vas pas opposer physique et mental. Tu vas avoir une approche globale et tu vas également proposer de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Donc, arriver sur la ligne de départ, regarder les autres et se concentrer uniquement sur des trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. C'est un petit peu ça que tu dis finalement.
Oui,
garder le contrôle sur ce qu'on peut, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler.
Oui, puis ce qui est important aussi, c'est de penser avant la course tout ce qui pourrait arriver que si je me prépare pas, je peux pas contrôler. Donc moi, je dis toujours, si vous avez des peurs, si vous avez des insécurités, pourquoi j'ai cette insécurité-là? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus confiant? Ben mon insécurité, c'est que j'ai toujours des problèmes gastro-intestinaux. Je vais juste vous donner un exemple. Ben c'est parce que je gère pas bien mon hydratation puis ma nourriture. Donc faut vraiment que je travaille là-dessus cette saison, vous voyez? Donc c'est parce que quand on pense à nos doutes, souvent on peut les contrôler si on y porte attention. Ça nous donne une meilleure confiance. Les doutes, même chose. Que je pense, ah, j'aime pas mon corps quand je suis en collant. J'ai pas le vélo le plus cher. J'ai pas les roues les plus luxueuses. Mais ça veut pas dire que je suis pas plus forte que la fille à côté de moi, vous voyez? Donc ça, oui, ça. Mais la confiance encore s'entraîne à l'entraînement. Mais encore, j'aime bien dire, par exemple, que c'est pas même moi que tu sais j'ai eu beaucoup de succès, mais ça m'est arrivé d'être à la ligne de départ puis avoir un peu d'insécurité. Mais tous les grands champions ont ça également, c'est de pas se laisser influencer. C'est de se dire, c'est normal, le gars à côté de moi pense la même chose. Tu sais, je veux dire, c'est gros ce qu'on va faire là, c'est une grosse course, c'est un ultra, c'est... tu sais, je suis pas certaine si je vais avoir des problèmes avec mon vélo, je suis pas certaine si je vais avoir une crevaison. Tu sais, c'est des doutes qu'on a, mais faut les laisser de côté. C'est comme la fatigue, je dis toujours, ok, les doutes, là, j'ai une compétition à faire, j'ai besoin de me focaliser, fait que les doutes, allez vous coucher, puis on va se reparler le lendemain.
Tu leur parles comme ça, toi, tes pensées parasites? Allez faire dodo. Allez.
Ben des fois c'est ça que je fais en compétition avec la fatigue. Je parle à la fatigue. Quand je commence à être un peu fatiguée, je me dis là j'ai un sommet à grimper, j'ai une course à finir, je vais aller chercher de l'énergie. Je sais que j'en ai. Quand je m'amuse avec les amis, puis la journée est difficile, on la finit toujours. Fait que je peux la finir aussi en compétition.
Alors. Ça fait deux épisodes que j'en parle, un petit peu, et là j'aimerais bien être de plus en plus précis, et je sais que tu vas parfaitement m'aider dans cette tâche, parce que tout le monde aura compris que tu es québécoise, et que même si tu parles un français parfait, tu parles aussi très très bien anglais, et ça va énormément nous aider. Est-ce que pourrions-nous même cesser de parler de mental, qui renvoie à l'idée que c'est l'outil de la dernière chance, un peu comme la chambre sur demande dans Harry Potter, mais plutôt remplacé par un terme comme mentalité, état d'esprit, et donc... grâce à toi qui es québécoise, mindset, qui est la traduction de état d'esprit, qui renvoie davantage à l'idée que le mental, ce fameux mental, c'est avant tout une façon d'être, une façon d'aborder le quotidien, les difficultés, de clarifier sa motivation, de structurer son plan d'action, etc. Et aussi, avant de te laisser la parole, ça laisse une question en suspens, est-ce acquis ou inné et pouvons-nous changer notre façon de penser ?
Oui, mais
oui,
moi,
j'avais écrit ma question. N'imaginez pas que c'est une tirade comme ça. Sinon, je ferais du théâtre, hein, bien entendu. Fabrice Cucchini tremble.
Hein.
Non, j'ai tout écrit maintenant. Il n'y a plus de place pour l'impro. Je prépare. C'est bien, hein?
C'est très bien. Tu m'impressionnes.
Merci.
Mais moi, j'ai pas préparé mes réponses. Donc, moi, je me suis toujours servi du terme mindset. C'est un terme anglophone, mais je trouve qu'il est beaucoup plus précis, comme tu viens de dire. Puis même dans mes livres, dans mon livre « Sans limites », puis même dans mon livre « Trail, les clés pour performer sans se blesser », je me sers de « mindset » parce que je trouve, comme tu viens de dire, le « mindset », c'est vraiment... c'est pas pareil que l'état d'esprit. Le « mindset » peut changer. C'est le « mindset » du moment. On peut avoir un autre « mindset » quand on se lève le matin, si on est motivé d'aller s'entraîner ou non. C'est notre « mindset » global. C'est le « mindset » face à la peur, face à la douleur, face à l'obstacle. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler, puis le mindset, il faut toujours le travailler. Mais un mindset, c'est pas linéaire, c'est pas comme la condition physique, que c'est la même chose que la condition physique. On peut pas toujours avoir un bon mindset, mais on peut contrôler notre mindset, c'est la grosse différence. Et le mindset, c'est comme si nous étions dans une construction perpétuelle d'un grand édifice. Puis, tout dépendant à quel étage on va aller, ça, c'est nos résultats, notre progression, franchir la ligne d'arrivée, notre condition physique. C'est vraiment le mindset qui va nous livrer à un autre niveau. Donc, quand on commence à se sentir fatigué, on n'a pas le goût d'aller s'entraîner, on lâche un peu, ben notre condition physique, on va la perdre un peu parce que notre mindset prend la relève. Comme en compétition, si quelqu'un nous passe, puis là, on est là, wow, le gars vient de me passer, je suis mieux d'enchaîner un peu plus, mettre plus de pouvoir sur ma pédale parce que je prends pas assez fort. Mais là, le mindset devient insécure. Fait qu'on est influencé par la personne qui nous dépasse. Ça, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut vraiment faire notre propre course. on faut pas être influencé par l'extérieur, mais ça, c'est toutes des décisions du mindset. Mais le mindset peut nous permettre de performer, peut nous permettre d'être plus résilient, d'être plus persévérant. Puis, mais un mindset, c'est pas juste d'être positif ou négatif non plus. C'est vraiment de, c'est vraiment, c'est à travers tout le cheminement, à l'entraînement, en compétition, même quand on s'entraîne pas, quand on se lève le matin pour aller s'entraîner, et une personne qui est énergisée, qui aime s'entraîner, une personne qui est réaliste dans le sens que je vais pas toujours me sentir bien, mais j'ai des bonnes intentions, fait que je vais quand même aller m'entraîner, puis avoir beaucoup d'humilité, tu sais, savoir aussi qu'il y a des choses pires dans la vie que s'entraîner puis pas finir une course, donc on se prend moins au sérieux, ça nous aide aussi d'avoir un meilleur mindset, de pas s'en faire avec les petits détails. Souvent, je trouve qu'on est dans une société qu'on se prend trop au sérieux quand c'est le temps d'être à la ligne de départ pour un ultra, soit en vélo, entre elles. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
Ça va. Ça va. Attends, je vais la relire parce qu'elle était quand même super longue et moi-même, je m'en souviens pas vraiment. Tu m'as pas parlé de Harry Potter et de la chambre sur demande, mais ça, c'était peut-être pas super important. Non, non, ça va, c'est parfait. Par contre, tu viens de dire s'entraîner avec intention. Alors ça, c'est un chapitre dans ton livre. Et tout à l'heure, j'essaierai de m'éclipser discrètement pour aller le chercher dans ma chambre parce qu'en fait, je l'ai relu encore un petit peu hier soir, je dois te l'avouer. Donc le dernier, hein, sans limite. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion de s'entraîner avec intention? Ce que ça veut dire?
Ouais, mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi je vais aller courir 3 fois par semaine? Pourquoi je vais aller au gym 2 fois par semaine? Pourquoi je sors sur mon vélo avec mes amis 4 fois par semaine? Donc, on a toute une raison pourquoi on veut s'entraîner. Si on n'a pas une raison, c'est dur de rester motivé. Motivé, c'est une action. Donc, l'intention, c'est pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi je veux faire cette course-là? Quelle est mon intention? Il y a certaines personnes, c'est que je veux commencer à juste faire du vélo 4 fois par semaine parce que je veux perdre du poids. Une autre personne, c'est que je veux vraiment essayer de faire un 100 km. Une autre personne, c'est que je m'en vais avec les copains faire une traversée de l'Espagne. Ça, on a toutes une intention. Puis nos intentions, ça nous aide à être motivés de suivre un horaire. Puis même quand on n'a pas le goût de s'entraîner, on y va parce qu'on se rappelle des intentions. Comme un de mes amis, par exemple, il a 3 enfants, sa femme s'entraîne pas du tout. Chaque dimanche matin, par exemple, sa femme est super, fait qu'elle lui dit « Tu peux partir 5 heures, aller t'entraîner pour ton ultra. » Mais une année, ça allait pas durant sa compétition, durant son ultra. Mais il s'est rappelé tous les dimanches matins qu'il avait pas été avec sa famille. Donc ça, c'était une intention pour lui de finir la course. Il faut que je le finisse pour mes enfants et ma femme, vous voyez? Fait que ça, c'est tout. Mmh. Ça, c'est tous des exemples d'intention. L'intention, c'est ça nous ramène à le pourquoi, la raison. Et c'est très motivant, de toute façon. Parce que quand on suit notre programme d'entraînement parce qu'on a des intentions, une des meilleures choses du sport, c'est de se sentir progresser. Ça nous donne tellement des bonnes émotions, c'est tellement positif. Mais si on n'a pas d'intention, c'est dur de progresser. C'est plus facile de rester au lit pendant une semaine, puis après ça, s'entraîner 2 fois, après ça, rien faire pendant 2 semaines avec une intention. C'est l'action. Et c'est nous rappeler aussi pourquoi je m'entraîne.
Tu peux revenir sur cette notion de progrès égale motivation. La sensation que, alors, la motivation, c'est avoir un objectif, se préparer pour tel ou tel événement ou pour telle ou telle raison. Comme tu l'as très bien dit, ça peut être juste pour perdre du poids, mais ça peut être aussi pour un événement ou pour X raisons. Mais aussi, la motivation vient de la sensation de progresser. Quand on progresse, on est super motivé. Et là, souvent, on retrouve chez des athlètes cette perte de sens ou cette perte de motivation parce qu'il y a stagnation.
Oui, il faut faire attention avec 2 choses. Premièrement, la motivation, c'est pas une émotion, mais c'est une action. Et souvent, même quand ça va pas, comme tu viens de décrire, pour une raison ou une autre, on est moins motivé en voulant dire qu'on n'a pas le goût d'aller s'entraîner. Mais on y va pareil, même si on est fatigué, on rencontre les amis, même si on n'a vraiment pas le goût. Rappelez-vous que ça, c'est quand même une motivation. Vous y allez pareil. Et ça, c'est important. La différence, c'est que vous perdez la perspective. Et quand on perd la perspective, souvent aussi, on met moins d'efforts et on voit moins la progression. Donc, C'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon programme d'entraînement. Parce qu'on va dire aujourd'hui, je vais faire 2 heures de vélo, puis pendant 15 minutes, je vais pousser les watts et tout. Si j'ai pas ce programme-là, puis j'ai pas vraiment le goût de m'entraîner, mais j'y vais de toute façon, parce que je sais que j'ai besoin d'y aller, mais je mettrai pas de la qualité. Fait que je vais m'entraîner pendant 2 heures, mais j'aurai pas de la qualité. Quand tu as un programme d'entraînement, t'es pas motivé, mais tu y vas pareil, donc il y a de la motivation. Tu pousses pareil, même si t'as pas le goût. Là, il y a de la progression. Donc, c'est vraiment, faut faire attention parce que souvent, les gens ont pas le goût, hein, d'aller s'entraîner. Moi, ça m'arrive. Des fois, tu sais, je suis trop fatiguée, j'ai voyagé, j'ai goût de rester à la maison. Tu sais, je veux dire, on est humain. Mais il faut se rappeler que même si on n'a pas le goût puis on y va, c'est une grosse motivation. Puis ça devrait vous donner de l'énergie. C'est comme, je veux quand même progresser, j'ai pas besoin de toujours me sentir bien. Puis les gens qui se lèvent très tôt le matin, c'est facile de rester au lit. Puis moi, je dis toujours, la motivation, c'est la minute que l'alarme sonne, vous vous levez dans la minute. Donc, vous restez pas au lit. Après 60 secondes, si vous êtes encore au lit, ah là là, vous perdez la course là.
Bon, je note celle-là. Je verrai combien de temps je mets à me lever samedi matin. Je te préviens. Je te préviens que si au bout d'un quart d'heure, je suis pas levé, je t'appelle. Et là, je compte sur toi pour me gueuler dans les oreilles. Il sera 8 heures, hein, donc je pense que tu seras déjà levé. C'est quoi la motivation ? Ça, je t'ai déjà posé la question. On va parler d'un petit truc. On en avait déjà parlé la dernière fois. C'est la différence, c'est la résilience. On entend souvent parler de ça, la résilience, la patience, prendre son mal en patience. C'est quoi tous ces termes un petit peu galvaudés,
ouais.
Tu vois, bah justement comme le mental, la motivation, la résilience,
ouais.
La bienveillance, tous ces termes à la mode,
ouais.
Qui sont utilisés à tort et à travers.
Ouais.
La résilience, c'est quoi?
Ouais, ben merci d'amener le sujet parce que je suis d'accord avec toi. T'sais, on parle beaucoup de ça sans vraiment savoir c'est quoi. Puis la résilience, surtout dans la longue distance, mais même dans la courte distance, hein, quand on fait un 5 km là, à la limite du lactate, là, il faut de la résilience. Mais la résilience, c'est quand les choses deviennent très difficiles, c'est de ne pas lâcher, c'est persévérer. Ça veut dire qu'il y a un obstacle devant nous, mais on lâchera pas. Donc la résilience, c'est vraiment faire face à un obstacle, faire face à un échec. C'est la résilience nous permet de terminer de franchir la ligne d'arrivée, qui est le plus important. C'est pas être sur la ligne de départ, mais franchir la ligne d'arrivée. La résilience, c'est le plus important qu'on ait une blessure. C'est le plus important qu'on ait une maladie. C'est la chose la plus importante qu'on commence à être vraiment découragé. Donc, la résilience, c'est vraiment regarder un obstacle, comme par exemple, j'ai complètement échoué ma course, j'étais pas assez entraînée, j'ai eu des crampes. Il faut vraiment que j'apprenne de ça. Ça peut être, par exemple, j'ai été blessée, mais au lieu d'être découragée, je vais faire ma rééducation exactement comme je fais l'entraînement. Je vais tout donner. Je ne serai pas découragée pour revenir plus fort qu'avant. Puis la résilience dans une compétition aussi, c'est quand ça devient super difficile. C'est de ne pas lâcher mentalement et dire premièrement, oui, c'est difficile, mais encore, c'est pour ça que j'aime faire ces courses-là. C'est la longue distance. J'apprends, j'ai des émotions. C'est difficile. Personne me force, mais je lâcherai pas. Donc, c'est vraiment comment persévérer durant un événement très difficile. Puis la persévérance, si tu me permets de faire la comparaison, la persévérance, c'est plutôt le contraire. La persévérance, c'est de continuer avec les kilomètres et avec les heures. C'est de pas se laisser arrêter juste parce que je deviens fatiguée ou ça devient difficile, mais il n'y a pas vraiment un obstacle. Comme dans les ultras, entre elles, il y a plein de monde qui vont lâcher juste dû à la distance. Tu sais, ils sont pas blessés, ils marchent, mais ils vont quand même lâcher. Puis persévérer, c'est de continuer même quand ça devient difficile. Mais la résilience, c'est quand il y a vraiment un obstacle devant nous.
Là, ce que tu viens de dire sur les nombreux abandons quand ça devient dur, est-ce que ça a aussi quelque chose à voir avec la perception de l'effort et la plasticité mentale dont tu parles dans ton livre?
Oui, totalement. Parce que moi, ce que je trouve énormément, tu sais, il y a deux cultures, hein. Puis, tu sais, j'ai fait de la course de vélo pendant longtemps, le trail, la même chose. Je comprends les deux sports. Puis en trail, la grosse différence, c'est que souvent, je trouve, c'est que les gens sont pas assez entraînés pour la distance. Je trouve qu'un cycliste va mettre beaucoup plus de temps parce qu'on peut pas descendre du vélo puis commencer à pousser le vélo, mais en course à pied, on dit toujours on peut marcher. Puis tout le monde peut faire des ultras. Tu sais, même si tu peux pas courir 20 km, il y a des gens qui s'inscrivent pour des ultras. Fait qu'ils ont une perception de l'effort très basse parce que des gens qui sont pas assez entraînés pour la distance, pour le dénivelé, mais qui vont quand même s'inscrire à un ultra en pensant qu'au pire, allez, je vais marcher, c'est un bon exploit. Mais leur perception de l'effort est tellement élevée. La minute qu'il y a une petite montée, c'est difficile parce qu'ils sont pas assez en forme. Donc ça leur permet pas de persévérer au même niveau que une personne qui s'est super bien entraînée, qui a fait énormément de dénivelé, qui a fait des intervalles de montée descente dans le premier 20, 30, 40 km d'un ultra, ben leur perception de l'effort est pas aussi élevée parce qu'ils sont habitués. C'est quand ça va être dans la deuxième partie, quand la fatigue commence à se sentir dans les jambes, ils vont alterner marcher-course et marcher-course. Et c'est la grosse différence. Ceux qui terminent un ultra se laissent pas impressionner par le parcours. Ils vont persévérer et ils ont une perception de l'effort totalement différente qu'un débutant. Donc, quand ça commence à être difficile pour eux, ils sont rendus comme ils ont déjà grimpé 10 000 mètres. Et ils commencent à marcher un peu. Donc, la perception de l'effort est vraiment par rapport à vous. Comment vous entraînez? Est-ce que vous lâchez de la minute que c'est très difficile? Est-ce que vous faites de la haute intensité? Comme en cycliste, on fait énormément de pouvoir parce que plus on a de watts, meilleur nous sommes cyclistes. Et c'est la même chose en trail, mais ça fait pas partie de la culture du trail. On vous dit de courir lentement, de pas pousser. Moi, je suis la première à dire qu'il faut faire des entraînements de haute intensité. C'est la même chose, il faut du pouvoir. Et ça change l'effort perçu. Quand on fait de l'intensité, notre effort change. On arrive en compétition, ça devient difficile. C'est comme j'ai fait ça pendant 6 mois à l'entraînement, fait que je peux me pousser un peu plus. Mais si je me pousse pas à l'entraînement, je peux pas me pousser dans un ultra.
Attends, je prends des notes. Allez, je le dis une dernière fois parce que tu viens de dire plein de trucs hyper intéressants. Tu viens de dire un truc qui m'a échappé. Mince, je voulais noter un truc. Alors là, tu viens de dire, en début d'épisode, tu m'as dit on peut pas séparer le mental et le physique. Et pourtant là, tu me dis les débutants ont une perception d'effort très élevée parce qu'ils sont pas assez en forme. Mais c'est aussi parce que, alors c'est la préparation, mais c'est aussi c'est la préparation physique, le niveau de forme général, la condition physique, mais aussi finalement la perception mentale et la perspective que l'on a sur un dénivelé, sur des conditions météo. Nous en vélo, on appelle ça parfois dédramatiser les kilomètres. Tu vois, on je fais 100 km, 200 km, 300 km, peu importe, ça n'a pratiquement aucune importance pour ceux qui sont déjà allés danser dans ce type d'effort. Mais quand on parle avec des débutants, déjà parfois 100 km ou même 50 km, c'est déjà beaucoup. Et une fois qu'on l'a fait, on se sent hyper à l'aise avec ça et on dédramatise totalement cette notion. C'est un petit peu ce que tu viens de dire finalement.
Un peu, comme l'expérience, c'est ça que tu es en train de dire, l'expérience.
C'est l'expérience finalement,
ouais,
bien sûr.
C'est ça. Mais la réalité, c'est que je connais des débutants, par exemple, qui sont capables de pousser. Ça veut pas dire que, pour clarifier, c'est que oui, quand on fait de la haute intensité, ça change notre perception de l'effort. Si on se pousse jamais, tout est difficile. Hein, c'est comme, tu sais, une personne qui fait énormément d'embonpoint, juste marcher dehors, le cœur va être très élevé, t'sais, la personne va suer, c'est un extrême à l'autre, mais cette personne-là va perdre énormément de poids, puis elle va être plus affûtée, mais juste bouger, sa perception d'effort va être différente. Il y a des débutants qui ont quand même une bonne perception de l'effort. Ça fait partie du caractère et du mindset. Fait qu'il y a certaines personnes qui sont débutants, mais vu qu'ils sont très persévérants, pour raison ou une autre, moi je les appelle... Certaines personnes sont des survivors qui sont naturels. Ils vont naturellement se pousser. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui nous impressionnent. C'est comme, wow! J'aurais jamais pensé qu'elle aurait fait un ultra, mais elle a pas juste terminé, mais elle a bien terminé. Même si ça fait juste un an qu'elle s'entraîne puis qu'elle fait 3-4 fois de la course. Mais il y a certaines personnes aussi qu'ils vont vraiment pousser leurs objectifs. Donc, ils sont capables de pousser l'effort dû à leur mindset. Mais en général, Comme c'est la même chose. Il y a des élites, on le voit sur l'UTMB, qui vont lâcher à Courmayeur. Tu sais, ils sont super affûtés, mais ils n'ont pas le mindset pour continuer à se pousser. Fait que tu peux être le meilleur, puis te lâcher. Donc, c'est pour ça aussi, comme tu viens de dire, on ne peut pas dissocier le mental du physique. Une autre fois, c'est un très bon exemple.
Alors, ce que tu as dit m'est revenu. Tu as dit maintenir les séances à haute intensité, c'est important. Et ça me rappelle qu'il y a 2 semaines, je crois, je suis tombé sur une interview de Sébastien Chéniaud, qui est un trailer, un ultra-trailer, un vieux de la vieille, qui expliquait que malgré qu'il fasse du trail, il garde des séances à haute intensité parce que, comme il dit, ben avant d'être trailer, on est coureur à pied. Enfin, en tout cas, vous, avant d'être trailer, vous êtes coureur à pied. Et ce que bien des coureurs, des trailers oublient, c'est que un trail, c'est quand même censé être de la course à pied. Même si 70%, 70 à 80% des participants de l'UTMB le font en marchant, ou en tout cas en grande partie en marchant. Ça reste quand même de la course à pied et maintenir une haute intensité, ça permet de repousser ses seuils, ça permet de travailler la technique, l'efficacité du geste, et je pense que c'est quelque chose à laquelle tu es sensible puisque tu es biomécanicienne, si mes souvenirs sont bons.
Ça fait partie de ce que je fais, mais de toute façon, moi, c'est quelque chose que même il y a une couple de semaines, j'étais à Annecy, Seb était là parce que c'était une conférence sur le trail, puis ils m'ont amené pour parler exactement de ça. C'est que la culture dans le trail en ce moment, c'est la longue distance, marcher lentement, entraînez-vous lentement pour aller plus vite. Ben quand on comprend la physiologie du corps humain au niveau cellulaire, ça fait aucun sens. Fait que moi, dans tous mes stages, dans mes masterclass, dans mes livres, la première chose que je dis, c'est exactement ce que Seb a dit aussi, c'est que la fondation d'un coureur, c'est la course à pied sur le plat. C'est travailler la cadence, c'est travailler la rapidité, c'est travailler les watts, c'est travailler la mécanique, c'est travailler la motricité du pied, c'est être dynamique, être engageant, comme on fait sur la pédale en vélo, comme on fait, c'est la même chose. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque sport a un côté technique et chaque sport, on a besoin de pouvoir, on a besoin de watts. Puis comme j'ai expliqué il y a 2 semaines à la conférence à Annecy, c'est qu'entre elles, on parle toujours de longue distance, d'endurance. Mais c'est un sport qu'on a besoin d'énormément de pouvoir et de force dû à la distance et au terrain. Donc, juste faire de la basse intensité, c'est la meilleure façon pour ne pas réussir. C'est l'équilibre. Et physiologiquement, comme en vélo, on a besoin de s'entraîner à différentes intensités parce que chaque système d'énergie est sollicité et c'est ça qui nous permet d'être un athlète plus complet pour tous les niveaux. Donc, comme des entraînements verticaux de haute intensité, moi j'en fais ici à Chamonix pour la communauté l'été une fois par semaine, puis les gens, les coureurs le sentent la progression de semaine en semaine, même si c'est juste 1 heure, mais c'est de très haute intensité. Ça sollicite la chaîne postérieure, antérieure. On fait des intervalles de montée, de descente. Tu sais, c'est de la spécificité aussi. C'est pas uniquement juste aller sur la piste puis faire des 200 mètres. Ça, c'est pas spécifique au trail. Donc, et c'est ça aussi qui, tu sais, l'entraînement est super important, mais c'est ce qu'on fait à l'entraînement qui est important. C'est ce que vous faites de l'heure que vous entraînez. C'est pas d'accumuler des heures. C'est qu'est-ce que vous faites durant le volume d'entraînement. Comme moi, même ça fait des décennies que je fais du vélo puis du trail, une fois par semaine minimum, je vais aller m'entraîner sur la route, sur le plat, juste pour travailler ma vitesse de base. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de pas me blesser. J'ai jamais eu de grosses blessures. J'avais des blessures quand j'étais adolescente, parce que je faisais beaucoup de pistes, du 800 mètres, du 1500 mètres. Fait que ça, c'est normal pour les ischios puis les mollets. Quand tu fais de la vitesse, c'est un gros abus sur le corps, mais c'est ça aussi. Puis les gens se blessent, je vais terminer avec ça, mais les gens se blessent parce qu'au niveau tissulaire, ils sont tellement faibles, ils n'ont aucune résistance à la fatigue. Donc, c'est pas parce que la course à pied est dure sur le corps et le trail est super dur. Non, ils marchent puis ils se blessent. C'est parce qu'ils n'ont pas la résistance à la fatigue. Les tissus sont très faibles.
Alors, mon cœur balance entre 2 questions. Est-ce que je fais un petit intermède récréatif ou est-ce que je pars sur un truc bien pénible? Tu préfères quoi, toi?
Pénible.
Pénible?
Ou non, tu décides.
Un petit intermède récréatif?
Ouais.
Alors, Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as dit, bon, il y a un chapitre dans mon livre sur l'entraînement des femmes, et mon éditeur a insisté pour que je le mette à la fin. Alors, et dans ce paragraphe, tu dis, je suis pas spécialement féministe. Ça veut dire quoi? Tu vois, je t'avais promis un truc récréatif.
Ouais.
On rigole, hein?
Rigole. Je sais. Mais écoutez, c'est bien. C'est bien parce que souvent aussi, la réalité, c'est que c'est ça. C'est que j'ai toujours été dans un monde d'hommes. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du vélo de longue distance, j'étais une des seules femmes avec tous les hommes. Avec mes études, avec mon travail en médecine, en orthopédie. Même quand je travaille des équipes, des athlètes professionnels, tout ça, je suis entourée la plupart du temps 95% d'hommes. Mais moi, j'ai en mon travail, en compétition, je suis entourée avec des gens avec qui je partage la même chose. Donc, je me suis jamais sentie moins forte ou plus faible, ou même que je devais avoir plus d'attention parce que j'étais une femme. Quand je faisais de la compétition PTT, par exemple, qu'il y avait beaucoup moins de femmes. Moi, mon but, mon objectif, c'était pas de dire que j'étais arrivée première femme, mais j'étais arrivée 9e avec tous les hommes. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que je suis pas vraiment féministe, c'est que moi, je me vois aussi, tu sais, je veux dire, quand on voit les top femmes en ultra, puis que les journalistes disent « Wow, c'est incroyable comment les femmes peuvent être aussi fortes que les hommes », moi, quand je dis, j'aime pas ça qu'ils disent ça, c'est pas parce que je suis féministe, c'est que physiologiquement, on dit pas ça dans des 10 000 mètres, dans des marathons, dans des 5 000 mètres, c'est la culture du trail, on dit ça, mais pas dans le reste. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que de toute façon, on le sait ça physiologiquement. On a à peu près 10 % de différence due à notre biologie, mais les records du monde, c'est à peu près ça, c'est 10 %. Donc, moi, je commencerai pas à écrire des articles sur « Wow, c'est incroyable, les femmes peuvent être dans les 20 premières, dans un ultra ou les 10 premières. » C'est normal, c'est juste qu'on a beaucoup moins de femmes qui font de l'ultra. On est à peu près 20 %. Donc, il y a beaucoup moins de femmes qui vont être dans les top 20. Mais si on met 200 femmes ensemble puis on les entraîne super fort, ben la plupart de celles-là pourraient être dans les 20 premiers. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis « Je suis pas féministe parce que on rentrera pas dans les autres détails. » Mais j'ai pas besoin de dire que waouh, c'est incroyable tout ce que j'ai fait parce que je suis une femme. Non, moi en tant qu'athlète, je suis très fière de tout ce que j'ai fait en général. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis?
Parfait.
Ouais.
Bien, la fête est finie, maintenant on va parler d'hypnose. Alors, je t'avoue que je vois passer de plus en... c'est pas vrai. Je ne vois pas passer de plus en plus de trucs là-dessus, j'y prête davantage attention. C'est un petit peu différent. Et ça semble être le truc à la mode, on va dire. Là, il y a la prépa mentale et maintenant on voit apparaître, ou en tout cas je vois apparaître l'hypnose. Mais j'avoue quand même avoir un petit peu de mal à cette... Alors tu notes que je lis mon paragraphe, hein, il n'y a pas d'impro, c'est fini cette histoire. J'avoue avoir un petit peu de mal avec l'idée que l'on recherche à manipuler l'inconscient au lieu de chercher à savoir ce qui nous bloque, d'essayer de comprendre ce qui nous bloque, de verbaliser... ce qui nous bloque, ce que l'on a du mal à faire, ou au contraire ce que l'on réussit. Donc en gros, de ne pas adopter une posture responsable, d'adopter ses points et d'assumer ses points faibles. Au lieu de ça, grâce à l'hypnose, c'est magique, on ferme les yeux, on se laisse endormir et on espère que le miracle va se produire et que l'on va se réveiller super fort, conquérant. Cela dit, je reste à la fois perplexe, mais aussi curieux, car je pars du principe que je peux me tromper ou passer à côté d'un outil intéressant. C'est pour ça que je me suis préinscrit à une formation en hypnose. J'aimerais bien ton opinion là-dessus.
Mais premièrement, c'est pas un domaine du tout que j'exploite. Ça fait pas partie... c'est pas quelque chose que je fais moi-même, personnellement. C'est pas quelque chose que je vais suggérer. Ça fait pas partie de... Je suis une personne très multidimensionnelle dans mon travail. C'est très rare que je vais travailler même avec des athlètes qui sont... je suis beaucoup dans le sport professionnel. Et au niveau orthopédique, ben c'est vraiment... l'hypnose en orthopédie, quand t'es blessé, ça l'aide pas vraiment. Mais la réalité, c'est que je veux pas être... j'aime mieux dire que je suis... j'aime mieux rester neutre. Parce que pour moi, il y a d'autres techniques. Ça peut marcher pour certaines personnes. C'est ça la différence. Ça peut vraiment marcher pour certaines personnes. On peut pas être expert dans tout. Donc, moi, je suis pas experte dans ce domaine-là. C'est pas un domaine qui m'intéresse parce qu'on peut pas être intéressé à tout. Quand on commence à faire tout, ben on n'est pas expert dans rien. Donc moi c'est important que je dise ça, mais en même temps, il y a d'autres choses que je crois qui pourraient être plus pratiques. Mais encore une fois, je veux pas dévaloriser la pratique si ça fonctionne très bien pour certains.
Alors, ça fonctionne très bien. Moi, j'aimerais bien ça. Alors, effectivement, on trouve toujours. Là, j'ai eu le cas hier. J'ai vu passer un truc hier. Apparemment, ça fonctionne. J'aimerais juste savoir, avoir une idée plus large du protocole, parce que le côté et le, enfin, le. On sait très bien que l'humain en général et les athlètes en particulier ont un talent immense pour nier la réalité, se voiler la face et trouver des réponses là où il y en a pas. Et on prouve. Quand ça marche, on est tenté de dire ouais, c'est grâce à ça. Mais j'aimerais bien avoir la démarche globale et savoir ce qu'il y a derrière ou autour de cette démarche. Donc c'est pour ça que le ça marche pour certains. Je me permets là aussi d'être un petit peu perplexe parce que on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas la globalité de la démarche et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc ça a fonctionné. Ça me paraît un petit peu audacieux quand même, parce que comme on le dit depuis le début de l'épisode, la performance c'est vraiment une multiplicité de facteurs, quelque chose de global, et ramener un succès ou un échec à de l'hypnose ou à autre chose, ou à une paire de pompes ou à une paire de roues super performantes, je suis pas sûr que ça soit très très pertinent. En revanche, tu as dit que ça ne t'intéresse pas, et ça, moi j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne t'intéresse pas.
Mais la raison pourquoi je dis ça m'intéresse pas, c'est que on peut pas tout faire. C'est plutôt le contraire, c'est que je serais pas honnête si je m'intéresserais à l'hypnose parce que je peux pas tout faire.
Puis tu peux pas être partout.
Je peux pas être partout, je peux pas tout faire, puis j'aime être experte. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce que je fais, puis j'ai étudié le cerveau le cerveau du corps humain, j'ai étudié en neuroplasticité, je suis allée en médecine, j'ai étudié la physiologie du corps humain pour la haute performance et la biomécanique. Tout ça est relié. On peut pas dissocier le cerveau des mouvements, on peut pas dissocier le cerveau du mental. Et quand on comprend le cerveau, comment le cerveau fonctionne, ben j'ai mon spectrum de comment je veux me spécialiser. C'est pour ça que j'ai écrit Sans limite. Tu sais, c'est pour ça aussi, avec mon expérience, avec mes connaissances, ben je suis pas vraiment intéressée à l'hypnose parce que pour moi, je comprends comment le cerveau va fonctionner et comment l'optimiser. Mais il y a toujours on retrouve toujours ces jours-ci. Il y a tellement de différentes pratiques à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, je m'intéresse, je suis très multidimensionnelle. Je vais lire énormément de livres que je suis pas intéressée, mais je vais les lire juste pour voir de quoi on parle. Je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais suivre certaines personnes parce que c'est très différent ce qu'ils ont et de quoi ils parlent, mais je veux voir d'où vient tout ça. Donc, je suis intéressée. Mais l'hypnose, ce qui se passe, c'est dans le sport, on a chacun, comme certaines personnes, c'est écouter de la musique, certaines personnes, c'est faire leur yoga, certaines personnes, c'est s'allonger, certaines personnes, c'est dormir, certaines personnes, ça peut être l'hypnose. Moi, je vois l'hypnose comme ça. Je pense pas que l'hypnose marche pour tout le monde, c'est pas comme une rééducation sportive, comme pour que les chevaux aient blessé, ben il y a un protocole. Je pense pas que tous les athlètes ont besoin d'hypnose. Mais c'est pas mon domaine je pense que ce serait mieux de poser la question aux experts de l'hypnose.
Eh bien, ça sera fait. Alors, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On parle de pensée parasite, de parade, de maître, d'artiste. Derrière ces termes abstraits, est-ce qu'il y a une origine concrète dans le cerveau, une activité, j'allais dire une activité secrète, mais j'ai trop regardé Harry Potter, dans le cerveau, et est-ce que ces pensées, ces émotions ont un emplacement spécifique dans le cerveau?
Mais la réalité, c'est qu'on a, trois parties du cerveau qu'il faut comprendre. Puis il y en a une partie du cerveau qui est, c'est la logique. C'est pour ça qu'on n'est pas en prison, qu'on n'est pas des meurtriers, c'est que on va dire merci, bonjour, on va arrêter à la lumière rouge, on a nos paramètres, on sait quand on fait quelque chose de mauvais, on sait quand on compte un mensonge, ça c'est la logique. On a une partie du cerveau que c'est comme, c'est nos données. Fait que c'est toute l'information qui passe. Prendre une partie du cerveau qui n'est pas physique, mais qui est toutes les émotions. Et moi, je l'appelle le colocataire. J'en parle beaucoup dans Sans Limites. Et ça, c'est bien important sûr. Pour l'athlète. C'est une partie du cerveau qu'on ressent tout, c'est les émotions. Donc, quand vous commencez à avoir de l'anxiété, stressé, quand vous avez le doute sur la ligne de départ, quand vous êtes émerveillé que vous avez traversé la ligne d'arrivée, que vous êtes découragé parce que vous êtes blessé, que vous avez mal parce que votre copain vous a laissé. Vous voyez, c'est toutes les émotions. Et ça, les émotions, c'est pas une réalité. Ça fait partie de notre personnalité et ça fait partie de notre rythme de vie, ça fait partie de notre personnalité dans le sens si on est positive ou négative. Ça dépend aussi, comme on dit en anglais, on appelle ça « wiring ». Wiring, c'est comme si on avait plein de connexions neuronales et nos
neurones... Le câblage dont tu parles dans ton livre
exactement,
aussi.
Exactement, c'est le câblage, merci. C'est le câblage qui nous fait qui nous sommes. C'est comme physiquement, on a notre posture, parce que si on reste comme ça toute la journée, ben c'est comme ça qu'on va être modelé. Donc, notre cerveau va changer de forme tout dépendant de nos émotions. Donc, si on est toujours négative, si on critique tout, ben là, le cerveau, cette partie-là du cerveau va être toujours négative. On va toujours avoir des mauvaises idées, des mauvaises sensations. Mais la réalité aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre du colocataire, c'est qu'il vit en nous. On a tous un colocataire. Certaines personnes, certains d'entre nous, on a plus qu'un locataire. On a un appartement dans le cerveau avec plusieurs pièces. Donc, tout dépendant au travail, à la maison, en compétition, on va avoir différentes pensées parasites. Mais ce qu'il faut se rappeler, que ça, c'est nous qui nous parle à nous-mêmes. C'est le colocataire qui nous parle. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est pas une réalité de ce qui se passe. Quand vous êtes découragé, ben peut-être vous avez une raison d'être découragé, mais c'est une émotion. Et encore, si vous persévérez, si vous êtes résilient et si vous apprenez à concentrer et à pas vous laisser vous influencer par les émotions, vous allez franchir la ligne d'arrivée. Et ça, c'est une grosse différence. Souvent, on entend « croyez en vous », c'est fait du self-talk. Non, c'est pas en vous disant « oui, moi, je suis capable ». C'est plutôt de réaliser que c'est normal de penser comme ça, mais c'est pas un côté physique du cerveau qui est réel. Et nous vivons d'émotions. C'est pour ça aussi que progresser et franchir la ligne d'arrivée, on se sent tellement bien. Là, le cerveau vous donne du feedback positif. Mais avant, il essayait de vous donner du feedback négatif pour pas terminer. Mais ça, c'est toutes vos pensées parasites et les pensées négatives qu'on a. Un bon athlète va mettre ça de côté. Comme on dit en anglais, c'est bon des fois de « shut down the brain », de ne pas penser. Pas penser, de pas croire ce que vous pensez. On vous dit de croire en vous. Moi, je dis, ne croyez pas ce que vous pensez quand vous commencez à avoir des pensées parasites. C'est une partie du cerveau qui essaie de vous arrêter, qui essaie de vous dire, vous en avez trop fait, vous êtes fatigué, vous allez avoir du lactate bientôt, je vais être épuisé, allez sur le sofa, vous allez vous sentir bien. On essaie de nous décourager pour arrêter. C'est des raisons pour arrêter.
Est-ce que l'on pourrait redétailler un tout petit peu cette partie sur les pensées? Les émotions ne sont pas réelles, parce que ça me fait un petit peu penser à ce que tu viens de dire sur le féminisme et le fait que toi, tu ne le sois pas vraiment. Dans ce contexte-là, on lit ou on entend souvent « faites-vous confiance, croyez en vous », mais on donne l'objectif final qui serait passer la ligne d'arrivée, mais sans expliquer le processus qui mène à croire en soi, à croire en ses capacités, à se faire confiance. On n'explique pas comment on fait. On n'explique pas comment on a confiance en soi, on n'explique pas comment on croit en soi, comment on peut croire en ses capacités.
Ouais.
On donne pas le chemin, on donne juste une injonction et démerde-toi avec ça.
Mais probablement, juste pour clarifier, quand je dis je suis pas féministe, c'est que je crois à l'égalité, mais je vais être la première. Tu sais, il y a certaines choses que oui, je vais être féministe, si comme on sait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais
là, ça dépasse le sport, Chloé. C'est même pas une question d'être féministe. C'est juste une question de savoir vivre.
Merci. C'est ça que je voulais entendre. Donc, je suis à ce niveau-là. Mais oui, c'est pour ça aussi que j'ai écrit mes deux livres, Richard, parce que ce que je trouve qui manque énormément dans le sport, puis surtout dans l'ultra, c'est que on vous dit pas comment progresser. On vous dit pas ce qui est plus important. C'est de ne pas croire en vous, mais d'avoir de la confiance. Mais la confiance se crée à l'entraînement. La confiance, c'est pas quelque chose là que vous asseoir dans votre salon et méditer et de penser que oui, je vais avoir confiance en moi, je vais avoir confiance en moi, je vais avoir confiance en moi. Avoir confiance en soi, c'est de mettre sur le terrain tous vos obstacles, toutes vos faiblesses, tout ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Donc, par exemple, un ultra en trail, c'est le dénivelé. C'est très difficile. Il y a plein de monde qui me disent, moi, je suis pas capable de monter en courant. Fait que je vais leur dire, mais est-ce que tu t'entraînes à courir? Ben non, c'est trop difficile, je marche. Mais là, ils vont venir à un de mes stages, on va faire des intervalles, je vais leur montrer des stratégies. Courir 4 minutes, marcher 1 minute, courir 3 minutes, marcher 1 minute. Tu sais, je veux dire, pousser un peu plus quand c'est pas assez raide, quand c'est raide, marcher, mais marcher rapidement. Et ça, ça donne de la confiance. Comme je vous dis, hein, même à Chamonix, durant l'été, je fais beaucoup de sorties pour la communauté, puis les gens qui viennent visiter, n'importe qui peut venir, c'est gratuit. Puis souvent, ce que je fais, je vais même les amener au... Eux, ils pensent que c'est une petite sortie facile, mais je vais les amener au plan de l'aiguille, c'est quand même assez raide, c'est 1000 mètres, mais sans qu'ils sachent, sans pression. On va monter sans arrêt, mais je leur montre plein de petits conseils. Comment courir efficacement, comment raccourcir la vélo, comment se servir du haut du corps. Puis là, à mi-chemin, on commence à courir un peu plus, moins, là, je leur donne des objectifs. OK, pendant 5 minutes, vous n'avez pas le droit de courir. Vous n'avez pas le droit de marcher. Donc, pensez à la technique que je viens de vous montrer. Et à la fin, pour à peu près 1 kilomètre, je leur dis, OK, là, vous n'avez pas le droit de marcher, puis vous allez pousser vos efforts jusqu'à temps qu'on soit au refuge de l'aiguille. Et là, en haut, tout le monde est émerveillé, tout le monde a le gros sourire parce qu'ils ont accompli quelque chose qu'ils ne savaient pas comment faire. Fait que ça leur donne beaucoup de confiance. Et savez-vous combien de fois je reçois des mails et des textes des gens qui sont venus à mes sorties ou qui ont pris mes stages qui me disent ça a totalement changé ma perception. Maintenant, quand je fais des compétitions et quand je m'entraîne, je me pousse beaucoup plus, j'ai progressé, je cours beaucoup plus vite. Mais ça leur donne c'est ça qui donne de la confiance, c'est apprendre des compétences. Et le sport, c'est des compétences, c'est apprendre des stratégies d'entraînement. Même chose avec le mental. Fait que ce que j'ai fait en leur montrant, sans leur dire qu'on était on était pour monter 1000 mètres, c'est que j'ai enseigné des techniques sans pression, arrêter, partir. Fait qu'on a beaucoup travaillé sur le mental. Si je leur avais dit avant, là, aujourd'hui, on va monter au plan de l'aiguille, ben il y en aura beaucoup qui auraient été stressés. Puis il y en a beaucoup qui auraient eu des pensées parasites. Moi, je suis pas capable de faire ça. Le gars, il a l'air tellement fit. Moi, je suis pas fit. Tu sais, ça met énormément de stress. Donc ça, c'est un très bon exemple que, premièrement, on a tous à développer des compétences. Regardez vos points faibles, où vous devez performer et progresser. Puis plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez progresser, et ça va vous donner de la confiance. Fait que quand vous êtes en compétition, vous avez déjà fait ça à l'entraînement, on en a parlé au début du podcast, mais c'est exactement ça. C'est de développer pour pouvoir progresser, et c'est là qu'on a de la confiance. Moi, souvent, en compétition, la raison pourquoi j'ai bien fait, c'est dû à ça. C'est que j'ai passé énormément de temps à ce que je devais développer. Vous devez faire une liste, mais aussi vos points forts, gardez vos points forts et apprenez de chacune de vos sorties. Chaque compétition, on apprend qu'est-ce que je peux m'améliorer. Où j'ai perdu du temps? Ah, c'est mes descentes. OK, là, je vais faire plus d'entraînement en descente, dans du terrain technique, un peu plus. Je vais essayer de pousser mes efforts. Je me pousse pas assez. Je vais lentement parce que j'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber. C'est parce que je suis pas bonne en technique, donc je vais me pratiquer en technique. Ça, c'est toutes des choses qui nous font évoluer en tant qu'athlète, mentalement, émotionnellement et physiquement.
Alors, je vais me permettre de rajouter un petit truc sur la confiance, c'est que, toujours dans la catégorie bullshit, on dit « fais-toi confiance », il faut avoir confiance en soi, mais on oublie qu'il y a plusieurs types de confiance. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir confiance en soi tout le temps, que la confiance en soi, elle est un petit peu volatile, que c'est pas un état permanent, et qu'on peut être un humain pas très très sécure, on peut ne pas être très très confiant en ses qualités humaines, ou comme on me l'a dit récemment, je suis une très bonne cycliste, par contre humainement je vaux rien, je pense pas être intéressante. Ça, c'est un peu raide à entendre, mais par contre on peut aussi avoir confiance en ses qualités techniques, ses capacités physiques, techniques, stratégiques, etc. Et on n'est pas obligé d'être confiant et d'être quelqu'un sûr de soi dans tous les domaines. Et on n'est pas obligé non plus. Donc on peut, on dit la confiance, mais c'est aussi un état fluctuant qui va, qui vient, et qui peut, où on peut être très bon dans un domaine, être parfaitement sûr de son coup dans un domaine, et un petit peu plus chancelant dans l'autre. Donc c'est là encore où tous ces termes-là manquent cruellement de précision, et où c'est aussi pour ça que j'ai insisté un petit peu sur ton non-féminisme, c'est que je trouve que dernièrement, on en parle beaucoup à juste titre et c'est très bien sur la visibilité de des femmes ou de différentes minorités, mais je trouve que c'est aussi énormément un argument marketing pour s'offrir une belle image à bon compte. Et par contre, concrètement, on voit que rien n'avance et que pas les dindons de la farce, mais les dindes de la farce restent les femmes elles-mêmes, malgré toutes ces bonnes intentions. Et récemment, j'attends avec impatience qu'elles reviennent de Colombie, mais récemment, j'ai parlé avec Marie-Soleil Blaise, que tu connais bien, qui est une très grande athlète québécoise, qui a fait le Tour Divide, et qui me disait, j'ai fait plein de demandes de financement, notamment auprès de Cannondale, et j'ai jamais eu de réponse. Par contre, elle finit devant Alex Hose, qui est athlète Cannondale. Elle finit par défaut devant Ted King, qui est un athlète Cannondale qui a abandonné au bout de quelques jours. Et par contre, Marie Soleil, qui a un palmarès long comme le bras et qui finit en très bonne posture et qui a fait une course magnifique, eh ben, je suis désolé de le dire ainsi, mais elle peut toujours se gratter pour rémunérer à la hauteur de son talent. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un énorme bullshit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont dites, mais qui restent à la surface des choses, qui restent extrêmement superficielles, juste pour se donner une bonne image, pour faire un bel outil marketing, mais qui ne donne absolument pas les outils aux premières concernées pour s'épanouir et s'émanciper en tant que femme et en tant qu'athlète.
Oui, et c'est ça aussi, c'est que ben, premièrement, moi je le vois, hein, je veux dire, je suis au niveau professionnel en médecine et l'orthopédie, même au niveau de l'entraînement et tout, je suis une des seules à ce niveau-là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de contrats que j'ai probablement pas parce que je suis une femme. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être me juger parce que je suis une femme. Mais si j'avais souvent les gens... Il y a ça aussi. Je sais que ça fait partie de notre vie, mais je me laisse pas influencer par ça. La même chose, hein. Je veux dire, moi, j'ai été chanceuse quand j'étais cycliste professionnelle. J'étais avec Rocky Mountain Bicycle à Vancouver. Mais c'est vraiment une compagnie très ouverte parce qu'on est différent au Canada, tu sais. Mais je sais pas si j'aurais eu un bon sponsor, un bon partenaire de vélo parce que probablement j'étais une des seules à ce moment-là qui faisait de la course de longue distance avec les gars. Puis en plus, j'étais très forte avec les gars. Fait que c'est pas nécessairement ce qu'une compagnie de vélo veut voir. Mais pour revenir à ce que je parlais de la confiance, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je vois, c'est que probablement je travaille énormément d'athlètes qui sont pas confiants, mais qui sont confiants avec les compétences qu'ils ont besoin pour être athlètes. Donc, c'est ça qui est important pour progresser en tant qu'athlète. Cette année, j'ai travaillé avec un très bon athlète que la plupart des gens au monde, dans le Western World, le connaissent, mais j'ai jamais vu une personne autant en doute. Mais tout le monde le voit probablement comme le meilleur de tous les temps dans son sport. Mais techniquement, il est incroyable. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut dissocier encore comment vous vous sentez par rapport à vous et qu'est-ce que je dois faire pour être une meilleure trailer, un meilleur trailer, une meilleure cycliste, un meilleur cycliste. Et ça va vous aider à vous sentir un peu mieux, même si vous terminez dernière, mais si vous avez tout fait. Il y a 2 ans, vous n'auriez même pas pensé faire un 100 km et maintenant, vous faites un 100 km. Même si vous êtes insécure, ça va vous donner un peu plus de confiance. Accomplir quelque chose, c'est une des meilleures choses. On n'est pas obligé de performer. Progresser, c'est important. C'est bien dans la vie. T'sais, c'est quand on termine quelque chose. T'as pas besoin d'être glorieux en ce moment. On parle comme Richard vient de l'expliquer. T'sais, on est dans un monde qui est un peu superficiel. Hein? Croyons, vous pouvez tout accomplir. Faites des choses super difficiles. Non, se lever à 6h le matin, c'est pas difficile. On met le cadran. Mais on aime dramatiser le fait que vous êtes super humain parce que vous vous levez à 6h le matin. T'sais. Donc, je pense que moi, je vous encourage énormément à travailler votre technique. Faites une liste de ce que vous devez travailler. Servez-vous de ressources, des amis, des experts autour de vous. Puis envoyez à Richard et à moi des mails, on va vous aider. Mais le plus important, c'est vraiment de ne pas se laisser prendre avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on vous dit, et de persévérer comme ça, et ça va vous aider à vous sentir mieux dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que le sport est bien.
Je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Attends, je vérifie ma petite liste de questions. Ouais, parce ouais. que. Alors, non, si, il y a un truc. Mais ça, c'est de la gourmandise. Tu vois, c'est un petit peu. Tu vois, c'est le côté cerise sur le gâteau, le verre d'oignol à la fin du repas. Qu'est-ce que tu fais avec la NASA? Qu'est-ce que tu fais avec les astronautes?
Ouais, ben moi, je suis scientifique pour la NASA. Donc, je suis en recherche en physiologie humaine. Donc, ce que je fais beaucoup, c'est premièrement, ce que les gens comprennent pas à la NASA américaine et au Centre spatial européen, canadien, japonais, en Russie. Premièrement, toutes les recherches qu'on fait, ceux qui en profitent, c'est la Terre, c'est les humains. Quand on est dans un espace aussi hostile que l'espace, c'est facile de faire de la recherche sur le vieillissement du corps humain, sur des maladies, sur plein de choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que ma spécialité, c'est au niveau tissulaire, au niveau de dégénération, au niveau des tendons, des ligaments, des muscles, au niveau cellulaire, au niveau de l'oxygénation, au niveau tout ce qui entoure la physiologie humaine. Et vu que ma spécialité, c'est en performance humaine, donc c'est pas juste pour le sport, c'est comment pousser le corps humain pour que les astronautes puissent partir dans l'espace dans un état optimisé, leur forme et leur capacité à tous les niveaux, à tous les niveaux des métabolismes, enzymatiques, cardiovasculaires, musculaires, respiratoires, à tous les niveaux, et de les garder au plus haut niveau durant l'espace. On fait des recherches pendant qu'ils sont en espace et le retour. Donc autant au niveau pour découvrir des nouveaux protocoles, des nouvelles maladies, des nouveaux comment vraiment pousser la longévité de l'humain. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et vu que ma spécialité est en performance humaine, donc j'arrive déjà avec beaucoup d'applications pratiques que je peux appliquer avec les astronautes et qu'on peut vraiment pousser la recherche à un autre niveau.
Je te laisse le mot de la fin, Chloé.
Oui, ben premièrement, merci beaucoup, Richard. J'ai bien apprécié notre échange. Et je crois que ce que je vous souhaite à tous, c'est d'avoir des intentions, des bons objectifs à court terme et à long terme, mais de vraiment focaliser sur la qualité, de pas vous mettre de la pression, c'est uniquement du sport, et de vous amuser. Quand on était jeune, on allait jouer dehors, puis on se posait pas trop de questions. Donc, vous pouvez faire ça aussi. C'est bon d'avoir des objectifs, mais garder le plaisir pour le sport.
Merci, Chloé.
Merci.